Bonjour à tous. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Amen. Alors je vais continuer aujourd'hui avec vous sur la joie des guerriers. Et normalement, on devrait terminer aujourd'hui sur la joie des guerriers, les armes du chrétien. Alors, je vais faire un petit résumé rapide, mais on va avancer ensemble comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là pour les fois précédentes, que vous puissiez être au courant un petit peu de quoi il s'agit. 2 Corinthiens 10, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Voilà. « Et nous combattons contre qui ? Contre le voleur. » C'est indiqué dans Jean 10:10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. » Et Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Il y a une vérité derrière tout ça, c'est que nous sommes confrontés au visible, mais aussi à l'invisible. Les protagonistes de cette guerre, on le voit dans Apocalypse 12:12, on parle du diable. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et Jacques 4, au verset 7, il nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ok. Mais qui est le diable? On l'appelle aussi Satan, du grec Satanas, qui veut dire « adversaire ». Ça, on emploie souvent ça, d'ailleurs, quand on parle de lui, on parle de l'adversaire. Quand on ne veut pas le citer ou lui donner plus d'importance, on parle de l'adversaire. L'autre terme est Lucifer, qui signifie vraisemblablement « porteur de lumière ». Et on voit dans Ézéchiel 28, au verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Lucifer ou Satan était donc un chérubin qui était gardien de la lumière. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance parfaite de la parole. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise sa connaissance, cette connaissance de la parole, pour nous tromper par ruse. Alors Satan a constitué son armée et composé d'esprits mauvais et de démons. Alors voilà, on voit qui est l'adversaire, on voit que nous sommes des combattants, on va y revenir. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avons l'Éternel à notre tête. C'est lui qui commande. Dans Osée 12, au verset 5, l'Éternel est le Dieu des armées. On le chante souvent, il y a des chants qui reprennent ce thème, qui parle de l'Éternel des armées. Son nom est Yahweh. Notre force, ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de l'Éternel qui a envoyé son esprit en nous. Amen. On est d'accord avec ça? L'Esprit de Dieu est en nous à partir du moment où nous l'avons accepté dans notre vie, où nous l'avons vraiment accepté comme sauveur et maître. Ok? Alors, on peut se rappeler ce que nous dit Jésus en Jean 16 au verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Quand on parle de combattant et de combat et de l'adversaire, on peut se dire, est-ce que je vais être vraiment en paix? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas une chose facile. Mais Jésus dit, ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Bon, c'est clair. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça, c'est hyper important. Il faut que ce soit gravé dans notre cœur et ne pas l'oublier. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. Alors, non seulement nous appuyons sur la force que l'Éternel a mise en nous, mais Jésus a vaincu le monde par son sacrifice à la croix et sa résurrection. Tout est accompli. Et pour nous rassurer encore, afin que nous sachions que nous ne sommes pas seuls pour livrer le combat, On peut lire dans Matthieu 28 au verset 18 et suivant, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il poursuit, c'est une mission qu'il nous donne, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » J'insiste, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Amen. Alors peut-être que certains se disent, mais moi, je ne suis pas vraiment un combattant. Bon, je ne pense pas que ce soit un rôle pour moi. En préparant ça, je me suis dit, la question, elle est là. Est-ce qu'on est tous des combattants? Est-ce qu'on a l'impression d'être des combattants? Voilà, vous pouvez réécouter le message de la dernière fois. Et on se dit parfois, non, moi je suis... Je suis chrétien, je viens à l'église le dimanche, je fais des choses, je partage avec mes frères et sœurs, mais ce n'est pas pour moi. On a parfois des idées comme ça qui nous viennent et qu'on appelle des forteresses, non pas la forteresse comme on l'a chanté tout à l'heure, dans lesquelles on peut se mettre à l'abri, mais des forteresses que construit l'adversaire pour nous empêcher d'avancer. En disant, t'es pas capable, t'es pas assez bon, de quoi tu te mêles, laisse faire les autres, c'est pas à toi de faire cela, reste à ta place, cache-toi, planque-toi, remets tes pantoufles. Tout ça, c'est des forteresses que construit l'adversaire. Si moi je les ai entendues, vous les avez certainement entendues, toutes ces petites choses-là. Et l'adversaire, comme on l'a dit tout à l'heure, il agit par ruse, doucement comme ça, sans qu'on se doute que ça vienne de lui. On se dit même parfois, c'est vrai, effectivement, moi je suis qu'un petit bonhomme, je ne peux pas faire grand-chose. Et on se fait avoir. Et on ne s'en rend peut-être pas compte, mais nous sommes des combattants. Et je disais, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait, on a commencé à combattre et on ne le sait pas. Lorsque nous prions pour la guérison, je pense que tous ici, à un moment donné, vous avez prié, soit pour vous, soit pour les personnes de votre entourage, pour la guérison. Ouais ? Ouais ? Eh bien, quand on fait ça, déjà, on entre dans le combat. Parce qu'on répond à la parole du Seigneur. Et on entre dans le combat. Lorsque nous intercédons pour une personne ou pour une situation, nous entrons dans le combat spirituel. Je dis aussi que lorsque nous louons notre Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous adorons, lorsque nous lisons et étudions la Bible, nous sommes comme des combattants qui s'exercent, qui se fortifient, et s'entraîne pour être plus fort dans le combat. C'est un tout. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, je disais la dernière fois, je pense que c'est bien de repréciser, que l'équipement du combattant ne vient pas d'une façon magique en les nommant. Hein, j'avais fait quelques petites blagues par rapport à ça. Je précise aujourd'hui que on peut affirmer devant l'ennemi que l'on se revêt des armes qui sont précisées dans la Bible. On peut le faire à condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on se soit entraîné. Que l'on ait ouvert la Bible, que l'on ait étudié, que ce soit approché du Seigneur, que l'on le loue, que l'on l'adore. Parce qu'en faisant tout ça, on se fortifie. On se fortifie pour aller au combat. On ne va pas au combat à la fleur au fusil comme ça, hein, parce que sinon, on va au-devant de gros problèmes. Hein. C'est marqué dans la Bible que certains qui n'étaient pas convertis, on s'est dit, moi, je par le nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, voilà, et ils ont voulu chasser les démons, et ils sont partis tout nus, en courant, parce qu'ils se sont fait un petit peu embêter, on va dire. Tout ça pour dire que on peut dire que l'on saisit les armes de l'Éternel pour avertir l'adversaire que l'on est prêt au combat, mais pour ça, il faut s'être fortifié et préparé. Alors, il nous faut nous muscler spirituellement, il nous faut avoir une totale confiance en Dieu et nous appuyer sur sa force et pas la nôtre. On est OK là-dessus. Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est encourageant aussi. Si on se confie dans l'Éternel, on a sa force. On ne doit pas compter uniquement sur notre force. On ne doit pas se dire « il faut que je m'entraîne pour devenir Rambo » ou je ne sais quel autre personnage. Non, on reste qui nous sommes, mais avec la force que l'Éternel met en nous. Alors, dans l'équipement, il y a tout un tas d'équipements que nous propose la Bible, et ça commence par la ceinture de vérité. Il y a un ordre dans tout ça, dans le sens que les choses ne se font pas dans le désordre. On commence par la ceinture de vérité, en Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi « prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour » et tenir ferme après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors c'est quoi cette ceinture de vérité, cette arme qui est citée par Paul, la ceinture de vérité ou la vérité pour ceinture? On peut retrouver dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alors on voit ici, sur les propres mots de Jésus, que la parole qui est inscrite dans la Bible est la vérité, et c'est donc sur elle que l'on doit s'appuyer, nous laisser enseigner, nous laisser construire, jour après jour. Pas se dire, ça y est, c'est bon, moi je sais, je connais, au revoir messieurs, dames, j'en sais suffisamment. Non, c'est tous les jours de notre vie que l'on doit se laisser enseigner. La parole, les écritures de la Bible sont l'enseignement indispensable pour nous édifier. C'est d'elles qu'on tire notre force, et c'est sur elles qu'on doit se baser notre intelligence et notre pensée. On voit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pas rester sur notre propre intelligence, nos propres conceptions, mais se laisser instruire par la parole, afin d'être renouvelé dans notre intelligence. Ça marche, vous me suivez toujours? Ouais. Et, poursuit dans Romains 12, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et non pas ce qui vous convient, ce qui est agréable dans le monde. Comme ça, on fait bien la différence. Discerner la volonté de Dieu, à la fois dans le rôle que vous avez à jouer personnellement dans ce combat. On a tous un rôle à jouer. Il faut se méfier de notre propre pensée, nos certitudes qui seraient basées sur notre propre connaissance de la vie. Bon, voilà, on est comme on est, hein, et on peut avoir tendance à se sembler juste et raisonnable à nos propres yeux. Il nous faut vérifier que nos pensées sont conformes avec la parole, et donc on peut dire que si nous lisons, nous étudions la parole, si on se laisse toucher par le Seigneur, si on s'approche continuellement de lui, et si nous nous laissons enseigner par la parole et par notre Seigneur, Non seulement ça contribue à nous fortifier, à nous équiper par le combat, mais ça nous aide à nous renouveler dans notre intelligence. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Qui dit corriger, ça veut dire qu'on n'est pas toujours dans le bon chemin. Elle est utile pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé, là aussi on parle d'équipement, de toutes bonnes œuvres. Alors ce passage de la Bible, il est utile, très utile, mais on peut avoir tendance à se dire, c'est utile surtout pour les autres. Moi ça va, j'avance avec le Seigneur, ça va, tout va bien. Tout va bien, et les autres ont quand même besoin de se former quand même un peu, hein, pour avancer. Hein. Et puis l'église, l'autre église là-bas, ils sont bien, je les aime, mais ils ont besoin d'évoluer un peu, hein, pour être au même niveau que nous. Bon allez, je fais des plaisanteries. Quoique, qu'est-ce qui se cache dans nos pensées? Comment il agit l'adversaire? Par ruse. Nous dire que telle ou telle église, peut-être moins bonne que la nôtre, qu'ils n'ont pas suffisamment avancé. Moi, je l'ai entendu, ça, par le passé, dans le temps. J'espère qu'on va moins l'entendre maintenant et qu'on n'entendra plus. On est frères et sœurs. Il ne faut pas chercher dans les frères et sœurs des adversaires. L'adversaire, on l'a cité tout à l'heure. Hein ? Il n'y en a qu'un, un adversaire. Ce n'est pas les frères et sœurs. Que se sentent bien dans une église, c'est normal, plutôt que dans une autre. Parce qu'il y a une couleur particulière, il y a une atmosphère particulière, et s'il y a autant d'églises, c'est pour qu'on se sente bien à un endroit donné et qu'on pose ses valises et qu'on avance avec le Seigneur. Mais toujours en se disant que dans ce bouquet de fleurs que composent toutes ces églises, sur Angers par exemple, ou en France, toutes ces fleurs forment un super bouquet, très joli. Ne soyons pas que des roses, aussi belles soient-elles. Soyons un bouquet de fleurs. Donc, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Ce que je ne fais pas complètement hein, la nuit, je dors aussi un petit peu de temps en temps. Ceci dit, quand je me réveille, parce que parfois ça m'arrive d'avoir des insomnies, ou d'un seul coup je me réveille, eh ben, je ferais mieux de prendre ma Bible et de lire. Voilà, je vous le dis franchement. Quand je vous apporte la parole, je me parle à moi aussi. Parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Voilà pour la ceinture de vérité. Ok ? Vous avez accroché votre ceinture de vérité ? Voilà, la Bible est avec vous, elle est dans votre cœur, il faut la méditer pour avancer, pour se fortifier. Amen. Alors maintenant, la cuirasse de justice. Qu'est-ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 8 ? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de foi et de l'amour. La cuirasse de la justice, de la foi et de l'amour. Dans Romains 3, verset 21, « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. » Ça peut paraître un peu compliqué, donc on va le lire doucement, je vais le lire doucement. « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes, non pas par nous-mêmes, mais par le sacrifice de Jésus. On l'a entendu tout à l'heure, on a été déclarés justes parce que Jésus a porté tous nos péchés, nos iniquités, tout, il a tout porté à la croix. C'est pour ça qu'on est juste. Ok ? On est au clair là-dessus ? Bon. On ne peut pas se déclarer juste par soi-même. Ça, C'est clair. On peut faire des efforts, mais ce n'est pas ça qui nous rendra juste. Mais nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, nous déclarons qu'il est notre sauveur et maître. Et depuis ce temps où on l'a accepté dans notre vie, on est juste, par sa grâce, uniquement par sa grâce. Et c'est ça qui nous rend fort et qui forme cette cuirasse. Et qu'on ne nous l'enlève pas. Comment je pourrais dire autrement ? Il ne faut pas douter de cette cuirasse. Comment fait l'adversaire ? Je le dis encore, par ruse. Il va vous faire croire, « Ouais, mais t'as vu comment tu vis ? T'as vu tes pensées ? T'es loin d'être juste, hein ?» Ça arrive d'avoir des pensées comme ça. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on garde sur notre cœur, c'est pas d'écouter ce que dit l'adversaire sur le fait que vous n'êtes peut-être pas si juste que ça, c'est vous baser sur ce que dit la Bible. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a tout porté sur la croix. Et maintenant, on est juste parce que c'est lui qui nous a déclaré juste. Amen. Vous pouvez dire à votre voisin, tu es juste parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Vous lui dites, tu es juste par le nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus, tu es juste. Dès le matin, quand vous vous levez, je suis juste par le nom de Jésus. Et du coup, quand on a vraiment ça accroché au cœur, eh bien, nous avons la cuirasse de justice. On l'a, cette cuirasse. Elle nous a été donnée. On continue. C'est pourquoi, prenez toutes les armes. OK. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, il y a certainement plusieurs éléments importants dans cet équipement. Tout d'abord, pour avoir les chaussures aux pieds, indique qu'il faut être prêt à tout moment. Pour rigoler, j'ai envie de dire, c'est pas marqué « mettez vos charentaises », pour ceux qui ne connaissent pas, vos chaussons. C'est de garder au pied, c'est-à-dire d'être prêt, d'être toujours prêt. Faut pas baisser la garde. Il faut être prêt au combat en tout temps, être prêt pour répandre l'évangile. Et même si c'est confortable d'avoir des charentaises ou des petits chaussons aux pieds, il faut être prêt. Et pour répandre cet évangile, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut pouvoir connaître l'évangile. C'est pour ça qu'il faut avoir la ceinture de vérité qui correspond à la connaissance de la parole. Il y a une certaine logique. Commencez par avoir la ceinture de vérité, la parole, dans notre cœur. La cuirasse, parce qu'on en a besoin, pour lutter contre tout ce qui va nous arriver de l'adversaire. Ce n'est pas pour rien qu'on nous cite tous ces éléments. Et du coup, on peut avoir les chaussures de paix. Et concernant la paix, il faut la voir et la vivre, cette paix. Donc vivre la parole. Romains 5, au verset 1, nous dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix. Isaïe 30, verset 15. « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il nous faut être dans la paix. Déjà parce que nous avons été déclarés justes, Donc déjà, on peut être en paix de ce côté-là. Être dans la paix, selon les circonstances, ça, c'est pas toujours facile. Et c'est souvent de ce côté-là que l'on peut être attaqué parce que nos yeux voient la difficulté, voient la montagne qui est devant nous. Et ça force notre regard à regarder la difficulté, mais on doit aussi regarder à la victoire qu'a remportée Jésus et la force que nous donne le Saint-Esprit. On est beaucoup plus fort qu'on peut l'imaginer. Encore une fois, pas par nos forces, mais par celles de Jésus. Alors, c'est difficile d'évacuer nos difficultés, nos souffrances, celles qui sont devant nos yeux, et pourtant, on le sait, c'est dans les bras de Jésus qu'il faut nous blottir, nous réconforter, parce que lui, il est là pour nous réassurer. On peut dire qu'on est sur le bon chemin avec cet équipement-là. Hein ? On avance ? On a la ceinture ? Ouais, de vérité, super. On a la cuirasse ? On a mis les bonnes chaussures ? Et on avance. Le bouclier de la foi. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Vous avez l'équipement ? On continue à s'équiper ? Alors, le bouclier de la foi. Éphésiens 6, on continue. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Alors, le bouclier de la foi pour résister aux attaques, il y a toujours cette progression dans les armes qui sont citées. Excusez-moi, je corrige mes erreurs en même temps. Le bouclier de la foi, et pas de la foire, non, il y a des fois, je me suis relu pourtant, mais il y a des trucs comme ça. Donc si vous voulez que je vous donne mes notes pour pouvoir avoir les différents passages bibliques, vous aurez aussi mes fautes de frappe et mes fautes d'orthographe. Ça vous fera rigoler un peu comme ça. Donc, c'est le bouclier de la foi qui nous protège. Alors, il se construit progressivement lorsque nous nous imprégnons de la parole, comme pour tout le reste, c'est clair. Donc, cette parole, qui est notre ceinture de vérité, j'allais dire de sécurité, mais enfin, si aussi, quand même. Donc, on a cette fameuse cuirasse, mais comme on a besoin de se protéger encore plus, on a besoin de ce bouclier. Et c'est donc par cette persévérance dans notre avancée avec notre Seigneur que nous nous fortifions et qu'on s'équipe de toutes ces armes et qu'on peut se protéger derrière le bouclier de la foi. Il faut toujours s'imprégner de la parole afin que nos armes restent en bon état. Dès qu'on se relâche, c'est comme si on laissait tomber notre bouclier. Si on enlève la ceinture parce qu'à un moment donné, on arrête de s'édifier avec la parole, si on laisse tomber nos armes, eh bien on va se retrouver en difficulté. Alors, dans 1 Pierre 5, au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à vous dévorer. » Qu'est-ce qu'il nous dit là, Pierre ? C'est que faut pas baisser la garde, nous fortifier continuellement. La confiance dans la parole, c'est le bouclier de la foi. Allez, on continue, on avance bien. Le casque du salut. Donc, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, on l'a dit tout à l'heure, il y a sur les forteresses, qu'on peut être attaqué dans nos pensées. Les pensées sont là, c'est pour ça qu'il faut un casque, pour se protéger de tout ce qui vient de l'adversaire, au niveau de nos pensées. On a parlé des forteresses. Alors il nous faut ce casque du salut, ça consiste à garder dans notre cœur les certitudes de notre appartenance à Christ. On appartient à Christ. On lui a donné notre vie. Quand on est passé dans les eaux du baptême, c'est là, en dessous, là, il y a de l'eau. Il y a des baptêmes, c'est quand ? C'est cet après-midi, tu dis, Bernard ? Voilà, bon. Les personnes qui vont passer par les eaux du baptême, comme vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, il est temps d'y réfléchir, hein, parce qu'il y a des choses importantes là. On indique à ce moment-là, on l'a dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et maître et je m'engage à te suivre. Si vous les avez oubliés, vous avez dit ça certainement au moment de votre baptême. Donc il faut continuer à suivre tous les jours de notre vie. On a une nouvelle identité en Christ. On le sait, hein, les choses anciennes sont passées. Tout ça parce qu'on est juste par le nom de Jésus et on a une nouvelle identité. On a une nouvelle filiation. On n'est plus de ce monde puisqu'on est dans une nouvelle identité. Ok ? Jean 15 au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi. Bien ça, il nous a choisi personnellement, il nous connaît, il nous a choisi. S'il y en a qui ne se sont pas encore décidés pour se tourner vers Christ, pour l'accepter comme son sauveur et maître, moi j'ai envie de vous dire ce matin, il vous a choisi. Il vous tend la main, il attend. Il nous a choisi du milieu du monde. Ben, c'est à cause de ça que le monde vous est. Bon, pas de surprise, mais il vous a choisi. Et pour se protéger, avoir ce casque, il y a des choses importantes. 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, on reste sur le même thème, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il faut être vigilant. 1 Pierre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Je vous le dis, hein, nous sommes une race élue. Enfin, moi, je vous le dis, je vous fais que répéter ce qui est dans la Bible. Hein, ok ? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. En tout cas, soyons affermis dans notre identité en Christ. Hein, et ne donnez pas accès au diable, comme c'est dit dans Éphésiens 4 au verset 27. Gardez ce casque du salut. Que ce soit une vraie protection pour vous. L'épée de l'esprit. J'étais un peu vite, hein, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir tout finir. Hein, mais ça va. Que là, vraiment la parole elle rentre dans votre cœur, que ça reste accroché comme des certitudes, hein, afin qu'on puisse tenir ferme, tous ensemble. L'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut, donc, virgule, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée d'esprit, donc, c'est indiqué, c'est la parole de Dieu qui nous a été révélée, parle du rhéma. La ceinture de vérité et la parole de Dieu qu'il nous faut connaître, c'est le logos. J'étais obligé d'apprendre ça parce que sinon je ne savais pas. Hein. Donc si vous connaissez bien ces termes-là, tant mieux pour vous. Sinon on peut apprendre. Hein. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'épée d'esprit de vérité est accrochée à notre ceinture. Pour illustrer ça, l'utilisation de cette épée de vérité, certains font référence à la tentation de Jésus dans le désert. Bon, on l'a dit, Satan, il connaît parfaitement la Bible. Ok. Donc, c'est l'Écriture, le Logos. Ah, il l'utilise pour tenter Jésus. Il sort la parole de son contexte, parce qu'il la connaît bien, il agit par ruse. Et donc, Jésus, lui, il utilise l'épée de vérité pour contrer les affirmations de l'adversaire. Il remet la parole dans son contexte grâce à la révélation de l'Esprit. Vous pourrez revenir à ce texte-là sur la tentation de Jésus pour vraiment comprendre un peu comment les choses se passent. Alors certes, il nous faut connaître la parole, le logos, afin d'avoir la ceinture de vérité, mais il nous faut, bien sûr, nous approcher en cœur à cœur avec le Seigneur. Tout simplement pour développer notre intimité avec lui. C'est ainsi que progressivement, la communication entre lui et nous s'enrichit. Cette communication, elle est précieuse de son esprit vers notre esprit et qui peut amener, ainsi, nous amener ses révélations. On a besoin vraiment de développer cette intimité avec le Seigneur, jour après jour. Moi, parfois, je me relâche. Et souvent, je me reprends. Parce qu'on a besoin de passer du temps avec lui. Et plus on passe du temps avec lui, on l'a chanté tout à l'heure, on a besoin de son aide pour pouvoir découvrir la grandeur de son nom, la grandeur de qui il est, de le louer et l'adorer pour qui il est. L'adorer. C'est pas uniquement connaître la parole, c'est très important. Mais connaître son cœur, c'est fondamental. C'est vraiment, je dirais, c'est le sang qui coule en nous. C'est un besoin vital. Et plus on s'approche de lui, plus la communication s'établit. Il ne faut pas oublier que l'Esprit-Saint vit en nous. Il ne faut pas l'enfermer dans un placard, comme je l'avais dit il y a des années dans un prêche, c'est qu'il faut lui laisser accès à tout notre être entier. Jésus, il nous dit dans Jean 14, au verset 25 et suivant, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Et nous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On voit bien que si on connaît la parole, pour nous rappeler quelque chose, il faut qu'on l'ait vécu, il faut qu'on l'ait lu, il faut qu'on l'ait vu, pour que ça nous soit rappelé. Et l'Esprit, il est là pour nous rappeler les choses. Et là, super, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Tout est important dans la parole, hein, c'est clair. On doit avoir confiance dans la parole et rester en paix dans la tribulation. Et se rappeler que l'Esprit de Dieu, il vit en nous et nous donne sa force et la révélation. Jésus nous rappelle dans Jean 6, au verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ah, qu'il est bon d'appartenir à notre Seigneur Jésus. Il pense à tout. Il nous instruit, il nous fortifie, il nous fait grandir. Il nous parle, il est avec nous. Tous les jours, c'est lui qui nous dit, je serai avec vous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Amen. Je rajoute la lance de l'intercession. Alors pourquoi je rajoute ça? Je n'avais pas prêté attention, mais en lisant le livre de Jérémy Potin sur le combat spirituel, il ajoute une explication complémentaire aux différentes armes que l'on vient de citer. Alors il nous dit, Jérémy Potin, je me permets de citer son livre, que certains théologiens parlent d'une septième arme spirituelle, car le soldat romain avait sept armes dans sa panoplie. Celle-ci serait la lance, donc lance de l'intercession, à laquelle l'apôtre Paul pourrait faire référence lorsqu'il déclare « faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant, en priant pour tous les saints. Et ça, c'était dans la suite de Éphésiens 6 au verset 18. Donc on est vraiment dans la suite de toutes les armes qui ont été citées. À quoi sert la lance du soldat romain ? Elle permet de toucher l'ennemi à distance. Donc spirituellement, il semble que ce soit la lance de l'intercession, ce qui permet spirituellement d'agir à distance par la prière. C'est hyper important. Moi, en première lecture, avant de lire ce livre, je ne l'avais pas perçu, ça. Comme si on arrive à la fin, on a lu le texte, des choses importantes qui ont été révélées sur les armes du chrétien que l'on doit avoir, que l'on a, qu'il nous faut saisir. Et j'avais glissé sur la fin sans m'y arrêter. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lit la parole, il y a toujours quelque chose à ressortir, parce qu'il y a tellement de facettes que l'on n'a pas vues, on n'a pas identifiées, parce qu'on n'est pas prêt à les entendre peut-être. Donc cette lance de l'intercession, elle est importante. Elle est importante, j'allais dire, souvent, j'y fais pas forcément attention moi, mais j'ai appris en formation que lorsqu'on est en entretien avec une personne, pour différentes raisons que ce soit, il faut faire attention aux dernières paroles qui sont dites. Parce que c'est souvent là que se cache les choses, le nœud du problème. Donc, il faut être vigilant jusqu'au bout. Et honnêtement, parfois, pris par autre chose, par le rendez-vous suivant qu'on peut avoir, on peut ne pas prêter attention aux dernières paroles que nous dit notre interlocuteur. Et là, je fais le parallèle avec ce passage que l'on vient d'étudier ensemble sur ces armes du chrétien. Et cette parole qui nous est laissée à la fin, qui pourrait passer inaperçue comme ça, eh bien, serait vraisemblablement quelque chose d'hyper important qu'il ne faut pas louper, justement.
Pour terminer, on peut dire qu'en développant notre connaissance de la parole et notre relation à Dieu, j'insiste sur la relation à Dieu, eh bien, on se renforce spirituellement. J'ai l'impression de défoncer une porte ouverte en disant ça, mais c'est tellement important. Et c'est ainsi qu'on s'équipe des armes nécessaires pour le combat, ce combat que nous avons à livrer, je le précise, contre l'adversaire, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas contre nos frères et nos sœurs. Nous avons et nous devons avoir la certitude d'avoir des armes puissantes, utiles et efficaces contre toutes les attaques de l'ennemi. Il faut vraiment se rappeler que Jésus a vaincu l'adversaire. Merci Seigneur pour ta parole qui nous édifie, nous fait grandir, pour ces moindres détails que tu places dans la Bible qui ont leur importance et qui nous permettent de nous raccrocher à qui tu es, à toute cette force que tu as mis dans la Bible, toute cette puissance extraordinaire que tu as placé dans la Bible et que tu places en chacun d'entre nous, afin que nous soyons des combattants forts spirituellement. Vraiment, merci Seigneur pour tout ton enseignement, pour qui tu es, pour ton amour, cet amour qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Merci pour toutes ces attentions que tu nous donnes à chacun d'entre nous dans les difficultés que nous traversons. Tu poses ta main sur nous, tu nous enveloppe de tes aides dans les moments les plus difficiles. Mais tu es là, Seigneur. Tu es là à chaque fois que nous en avons besoin. Et dans les moments où nous nous réjouissons, tu te réjouis avec nous. Tu trépignes avec nous. Tu es tellement heureux de nous voir évoluer avec ta parole, évoluer avec toi. Tu es tellement heureux lorsqu'on ouvre notre cœur à ton cœur. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. Continue à faire en sorte que ta parole eh bien, soit vraiment une révélation à notre cœur, qu'elle s'inscrive dans notre cœur, au plus profond de notre être, afin que nous puissions vraiment la restituer, cette parole autour de nous, que nous puissions être les lumières que tu veux que nous soyons sur la terre, que nous soyons vraiment le sel sur la terre. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta parole. Et que nos vies soient des vies d'adoration, comme on l'a chanté tout à l'heure. Vraiment, donne-nous soif de toi, donne-nous soif de te connaître personnellement, Seigneur. Merci, merci pour qui tu es encore une fois, et que nos cœurs soient des cœurs d'adoration. Amen.